VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, excellent début de journée en notre compagnie sur VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Anne Albertson ce matin. Bonjour Anne.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de notre émission.
Le procès historique de Laurent Gbagbo qui s'ouvre devant la CPI. Il est accusé avec Charles Blé Goudé de crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire.
Nous attendons que ce procès réponde de la vérité sur la crise électorale pour que la justice puisse se faire et que la lutte contre l'impunité se poursuive.
Dossier spécial à suivre au Niger. Les opposants au président Issoufou s'allient en vue de la présidentielle du mois prochain.
Rapport 2015 de Transparency International. La corruption gangrène toujours le continent.
Il n'y a pas beaucoup de progrès en termes de la prestation ou la performance des pays africains. Ceux qui se retrouvent au bas de l'échelle, on a toujours la Somalie, on a l'Angola, le Soudan du Sud.
Et comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Éco et le Journal des Sports, le Mali et la Zambie, derniers qualifiés pour les quarts de finale du CHAN au Rwanda. Mais tout d'abord, sur VOA Afrique, le journal.
Ouverture donc ce jeudi à La Haye du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Ce sera la première fois qu'un ancien chef d'État africain comparaît devant la CPI, également appelé à la barre son co-accusé Charles Blé Goudé. Retour sur ce procès historique avec Eric Manirakiza.
Laurent Gbagbo, 70 ans, et Charles Blé Goudé, 44 ans, seront sur le banc des accusés. Les deux hommes vont plaider coupables ou non coupables de 4 crimes contre l'humanité, meurtre, viol, actes inhumains et persécution. À l'ouverture, la procureure Fatou Bensouda prendra la parole, ainsi que les représentants des victimes, puis les avocats à la défense. L'accusation dit disposer de 138 témoins qui ne seront pas tous appelés à la barre et de 5300 éléments de preuve. La crise post-électorale de 2010 avait fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, arrêté en 2011, est le premier ancien chef d'État livré à la CPI. Son épouse Simone Gbagbo a été condamnée à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Jusque-là, aucun membre du camp d'Alassane Ouattara n'a été inquiété par la CPI.
Et dossier spécial à suivre sur ce procès Gbagbo dans la deuxième partie de notre émission. En Centrafrique, le second tour de la présidentielle est reporté sine die et ne sera pas couplé avec les législatives. Le Parlement provisoire va poursuivre sa mission jusqu'à la mise en place d'une nouvelle Assemblée nationale. Par ailleurs, hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé pour un an le régime de sanctions, dont un embargo sur les armes imposé à la République centrafricaine en renforçant certaines dispositions.
Présidentielle nigérienne du 21 février, 4 opposants ont signé hier un accord en vue de faire bloc contre le président Mahamadou Issoufou en cas de second tour. Les précisions de Jean-Roger Bion.
La coalition pour l'alternance 2016, COPA, regroupe Seyni Oumarou du Mouvement national pour la société de développement, l'ancien président Mahamane Ousmane, Amadou Boubacar Cissé de l'Union pour la démocratie et la République et l'ex-président du Parlement Mahamadou du Mouvement démocratique nigérien. Ce dernier étant emprisonné depuis le 14 novembre en rapport avec l'affaire du trafic présumé de bébés, c'est le leader intérimaire de son parti, Amadou Nouma, qui a signé l'accord du 27 janvier. Les 4 leaders politiques se sont engagés à soutenir au second tour celui d'entre eux qui sera le mieux placé. Leur objectif, empêcher le président Mahamadou Issoufou de décrocher un second mandat sous la couleur du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Un accord similaire signé en 2011 avait été rompu par Mahamadou, arrivé troisième pour soutenir le président Issoufou.
3 attentats suicides ont frappé hier Chibok dans le nord-est du Nigeria, tuant au moins 13 personnes dans cette ville où les djihadistes de Boko Haram avaient enlevé plus de 200 lycéennes, c'était en 2014. L'attaque de Ouagadougou, qui a fait 30 morts le 15 janvier dernier, a bien été menée par 3 assaillants, selon les premiers éléments de l'enquête. C'est ce qu'a déclaré hier Maïsa Sérémé, la procureure burkinabé, précisant qu'une personne était encore en garde à vue.
Jusqu'à 34 000 personnes ont été déplacées par les combats déclenchés la semaine dernière entre les forces gouvernementales et les rebelles au Darfour, dans l'ouest du Soudan. Selon l'ONU, des affrontements ont éclaté il y a une dizaine de jours autour de Jebel Mara, une zone montagneuse considérée comme un fief de l'armée de libération du Soudan, Abdelwahid Nour, l'un des groupes rebelles combattant le régime d'Omar el-Béchir.
Les autorités de la République démocratique du Congo ont remis hier un arsenal anti-émeute à la police, provoquant l'inquiétude des défenseurs des droits de l'homme après de 11 mois des élections incertaines. Le ministre congolais de l'Intérieur, Évariste Boshab, a remis ses matériels au général Charles Bisengimana, chef de la police en présence de la presse. Et c'est dans ce contexte que les Nations Unies se sont alarmées de, je cite, l'augmentation dramatique des violations des droits de l'homme dans le pays. Selon la MONUSCO, les agents étatiques sont responsables de 49% de ces abus. Écoutons José Maria Aranas, il est le directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme en RDC.
En total, on a enregistré 3847 violations des droits de l'homme des agents étatiques. Ils ont commis aussi 294 exécutions extrajudiciaires. On a documenté aussi 260 violations des droits de l'homme qui ont des relations avec le processus électoral, une tendance préoccupante à la restriction de l'espace politique et de la restriction de la liberté publique, contraire à l'esprit des élections crédibles.
José Maria Aranas, au micro de Thierry Cambouni de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, l'Organisation des États américains approuve l'envoi d'une mission spéciale en Haïti pour aider le pays à sortir de la crise politique après l'annulation du second tour de l'élection présidentielle. La demande de cette mission a été formulée par le président haïtien lui-même, Michel Martelly.
Et l'inquiétude grandit face au virus Zika dans le monde. Trois mois après les premières alertes sanitaires au Brésil, la présidente Dilma Rousseff a appelé l'ensemble de la région à adopter une stratégie commune pour combattre la maladie, annonçant un sommet des ministres de la Santé la semaine prochaine en Uruguay.
La Cour pénale internationale annonce l'ouverture d'une enquête sur le conflit ayant opposé la Russie à la Géorgie en Ossétie du Sud. C'est la première fois que la CPI se penche sur un dossier hors de l'Afrique, Eddie Isango.
Depuis son entrée en fonction, la CPI a été accusée de ne juger que des Africains. Cela pourrait bientôt changer avec le feu vert donné par ce juge à la procureure Fatou Bensouda pour qu'elle examine la guerre de 2008 entre la Russie et la Géorgie en Ossétie du Sud. Pour rappel, la Géorgie avait lancé en août 2008 une offensive pour reprendre le contrôle de l'Ossétie du Sud, territoire indépendant de facto au début des années 90 suite au démantèlement de l'ex-Union soviétique. En réponse, la Russie avait engagé une opération terrestre occupant une partie de la Géorgie. Moscou avait par la suite reconnu l'indépendance de l'Ossétie du Sud, mais aussi de l'Abkhazie, autre territoire géorgien voisin. Un bilan de l'ONU datant d'août 2008 faisait état des centaines de morts. Selon le juge de la CPI, il y a une base raisonnable de croire que ces crimes ont été commis dans ces conflits entre les 1er juillet et les 10 octobre 2008, notamment de meurtres, pillages et déplacements forcés des populations.
La Suède entend expulser jusqu'à 80 000 migrants arrivés sur son sol en 2015 et dont la demande d'asile a été ou sera rejetée. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur, Anders Ygeman.
Retour à Washington, où le président américain Barack Obama a mis en garde contre la montée de l'antisémitisme et insisté sur les liens indestructibles entre les États-Unis et Israël. Nous devons affronter une réalité, il y a une hausse de l'antisémitisme à travers le monde. C'est indéniable, a-t-il déclaré lors d'une allocution à l'ambassade d'Israël à l'occasion de la Journée internationale à la mémoire des victimes de l'Holocauste.
Ici aux États-Unis, un groupe d'associations locales et nationales a porté plainte mercredi pour exiger le remplacement des conduites d'eau de la ville de Flint dans l'État du Michigan. Une eau censée être potable, mais qui est polluée depuis avril 2014. Maëlys Hegel.
Cette affaire remonte à avril 2014. La ville de Flint a cessé de s'approvisionner en eau de Détroit pour puiser dans une rivière locale une eau à la qualité réputée pourtant de douteuse. Les habitants se sont très vite plaints du goût, de l'odeur et de l'apparence trouble du liquide sortant de leur robinet. Les autorités ont donc augmenté le niveau de certains produits chimiques, causant des problèmes cutanés et des chutes de cheveux. Melissa Mize de l'association What Are You Fighting For explique comment pendant des années elle s'est battue pour faire reconnaître à l'État que l'eau de Flint n'était pas propre à la consommation. Mais l'État ne nous a répondu que nous étions fous, s'indigne-t-elle. Les agences de la ville et de cet État ont échoué à régler les problèmes d'eau à Flint. C'est pour cela que les habitants ont besoin d'une cour fédérale. L'eau de Flint est tellement corrosive qu'elle a rongé des conduites en plomb du réseau de distribution et corrodé les pièces de voiture de l'usine du constructeur General Motors.
Et à signaler que le gouverneur du Michigan, Rick Snyder, a engagé mercredi une équipe d'experts censés régler la crise. De son côté, le maire de Flint a estimé à quelque 1,5 milliard de dollars les coûts occasionnés par l'érosion des conduites d'eau.
C'était le journal sur VOA Afrique. Ne manquez pas, dans quelques minutes, notre deuxième partie consacrée largement à l'ouverture du procès de Laurent Gbagbo devant la CPI. Mais tout de suite, place à la Minute Écho qui nous est présentée ce matin par Anastasie Tudiech.
Le réseau social américain Facebook revendiquait 1,59 milliard d'utilisateurs fin décembre, dont 65% se connectent tous les jours. Des utilisateurs que Facebook parvient de mieux en mieux à monétiser, il a dégagé un revenu moyen de 3,73 dollars par utilisateur au quatrième trimestre, pour un chiffre d'affaires total de 17,9 milliards de dollars, dépassant ainsi les prévisions des analystes. La publicité mobile est particulièrement fructueuse, qui représente désormais 80% des revenus publicitaires de Facebook. Aux États-Unis toujours, la Fed, la banque centrale américaine, a laissé hier ses taux d'intérêt inchangés, 6 semaines après avoir amorcé un changement de cap monétaire, en notant que la croissance économique des États-Unis avait ralenti à la fin de l'année dernière. Le groupe américain Kosmos a indiqué hier avoir découvert du gaz au large des côtes sénégalaises, à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie. Selon Kosmos, qui s'est fait connaître en Afrique par la découverte du champ pétrolier géant Jubilee au large du Ghana, les réserves du site pourraient atteindre 17 000 milliards de pieds cubes de gaz. La banque Atijari Wafa lance le club Afrique Développement, présenté comme un centre de réflexion, de services et d'investissement. Le lancement officiel est prévu fin février, à l'occasion de la 4e édition du Forum international Afrique Développement, organisé par la banque marocaine. Sur le bénéfice de 4,35 milliards de dirhams dégagés en 2014, soit environ 409 millions d'euros, environ 680 millions de dirhams proviennent des antennes subsahariennes de la banque.
Merci Anastasie. Et sur VOA Afrique, tout de suite, place au sport. Pour en parler, nous accueillons Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nicolas.
Ça y est, les jeux sont faits. On connaît les derniers qualifiés pour les quarts de finale du CHAN 2016 au Rwanda. Le championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs locaux.
Oui, la Zambie, qui était déjà qualifiée avant cette dernière journée, a été tenue en échec 0-0 par le Mali, qui profite de ce score pour se hisser en quart de finale. Quant au Chipolopolo de Zambie, il termine en tête du groupe D. L'Ouganda a été tenu en échec 1-0 par le Zimbabwe. Les deux équipes, hein, il faut le dire, sont éliminées. Les quarts de finale démarrent samedi avec le choc au Rwanda RD Congo. Ce match sera suivi de Cameroun-Côte d'Ivoire, une rencontre qui rappelle les grandes affiches de Coupe d'Afrique des Nations. En quart de finale, toujours, la Zambie affrontera la Guinée et le Mali la Tunisie.
Football et gros sous, la Bundesliga bat des records.
Le championnat allemand de football a amélioré pour la 11e saison consécutive son chiffre d'affaires. Les 18 clubs de première division allemande ont généré un chiffre d'affaires total de 2,62 milliards d'euros lors de la saison 2014-2015 contre 2,45 milliards d'euros la saison précédente. Les Allemands souhaitent dépasser la première ligue anglaise, le championnat le plus prospère d'Europe dans les 10 prochaines années, a expliqué mercredi le patron de la Ligue allemande.
Toujours en Europe, au Portugal, inquiétude au sujet des joueurs chinois.
Oui, cette inquiétude est partie du fait que le futur sponsor de la deuxième division portugaise de football, la multinationale chinoise Ledman, cherche à imposer des joueurs de l'empire du milieu dans les clubs portugais, ce qui suscite l'inquiétude de leurs dirigeants qui veulent garder la main sur le recrutement. On ne peut pas nous imposer la venue de joueurs chinois, cela doit rester une option, a réagi mercredi le patron des clubs de Ligue 2, José Godino.
Autre sport, le handball, les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, ce mercredi, l'Égypte a battu le Congo 39-18. Le Nigeria a écrasé le Kenya 33-23. L'Algérie a eu raison de la RDC 34-25. La Libye a battu le Gabon 29-26. La Tunisie bat le Cameroun 24-20. Et l'Angola qui bat de justesse le Maroc 22-21. Les demi-finales donc opposeront vendredi l'Algérie à la Tunisie, comme lors des finales 2012 et 2014. Et l'Égypte, pays hôte, sera opposée à l'Angola. Et pour terminer, Nicolas, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oui, grâce à 21 points de LeBron James, Cleveland s'impose 115-93 face à Phoenix. Victoire de Boston 111-103 contre Denver. Détroit domine Philadelphie 110-97. Match serré entre les Clippers de Los Angeles et Atlanta. Au final, ce sont les Californiens qui s'imposent 85-83. Enfin, Minnesota battu à domicile par Oklahoma City, 123 à 126. Et on remercie pour ce journal des sports Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission qui est un peu spéciale en ce jeudi matin, puisque nous allons consacrer une grande place à l'ouverture du procès de Laurent Gbagbo à la CPI. Tout à l'heure, devant les juges de la Cour pénale internationale à La Haye, l'ancien président ivoirien va comparaître en même temps que Charles Blé Goudé, ancien leader des Jeunes Patriotes. Ils sont tous les deux accusés de crimes contre l'humanité pour leur rôle présumé dans la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Les violences avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois et M. Gbagbo avait finalement été arrêté en avril 2011 après plusieurs jours de bombardement de la force française Licorne. L'audience débute à 8h30, temps universel. Première analyse ce matin sur VOA Afrique, celle de Gaëtan Moutou, chercheur à Amnesty International.
C'est le premier chef d'État africain qui va être jugé devant un tribunal pénal international. Donc ce que nous voyons dans ce procès, c'est que sous l'administration de Laurent Gbagbo, il y a eu des violations des droits de l'homme qui ont été commises. Donc le tribunal a enquêté et a identifié un certain nombre de charges contre lui et qui est passible d'un jugement devant le tribunal pénal international. Amnesty souhaite que le tribunal ne s'arrête pas uniquement à ce symbole d'un ancien chef d'État, puisque entre 2002 et la période post-électorale, il y a eu d'autres violations qui ont été commises à la fois par les partisans de Laurent Gbagbo et également par les partisans de Guillaume Soro dans les années 2002. Et ensuite, après, les partisans de Alassane Ouattara ont également commis des exactions dans des crimes très graves dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Peu de temps avant la chute de Laurent Gbagbo, il y a eu des exactions contre la population civile de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et nous estimons qu'il est important qu'on ne se focalise pas uniquement que d'un côté de la médaille. Il y a également deux faces d'une médaille. Donc ce serait important que le tribunal se penche également sur des exactions commises par d'autres parties liées à ce conflit.
Et Charles Blé Goudé, qui n'était que le leader des Jeunes Patriotes alors?
Oui, durant cette période, il y a également des milices qui soutenaient Laurent Gbagbo, qui se sont rendus responsables de violations des droits de l'homme. Et nous voudrions à ce sujet souligner que le tribunal pénal international a demandé le transfert de Mme Simone Gbagbo vers La Haye. Antérieurement au transfert de Charles Blé Goudé, il y a eu le transfert de Laurent Gbagbo. Nous estimons que la Côte d'Ivoire, dans la mesure où elle est signataire du traité de Rome, devrait accepter le transfert demandé par les tribunaux pénaux à La Haye.
Gaëtan Moutou, chercheur à Amnesty International, il était joint à Paris. Je vous précise que l'ex-président ivoirien est accusé d'avoir fomenté une campagne de violence pour tenter de conserver le pouvoir. Quant à Charles Blé Goudé, il aurait, lui, été à la tête d'hommes ayant tué et violé des centaines de personnes dans le but de maintenir l'ex-chef d'État au pouvoir. Autre analyse, celle de Drissa Traoré, avocat ivoirien. Il est aussi vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme.
C'est un procès que nous appuierons un certain temps puisque le procureur a ouvert les enquêtes et que ces deux et Blé Goudé ont eu les charges confirmées. Et donc nous attendons que ce procès qu'un pan de la vérité sur la crise post-électorale pour que la justice puisse se faire et que la lutte contre l'impunité se poursuive.
Mais pour le moment, on ne juge qu'un seul camp. Les anciens rebelles n'ont jamais été inquiétés.
Nous avons eu des informations selon lesquelles des personnes, certains qui sont de l'ancienne rébellion, mais là, devant la CPI, ce n'est pas le cas et nous souhaitons vivement que le procureur puisse continuer son travail et que des personnes qui peuvent être soupçonnées d'avoir commis des crimes graves dans le camp des FRCI puissent être poursuivies. La commission nationale d'enquête mise en place après la crise post-électorale par le chef de l'État Alassane Ouattara a de graves violations des droits de l'homme de part et d'autre. Donc des forces de défense et de sécurité et des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui se détenaient à la Alassane Ouattara. Et nous pensons donc qu'il est important que la justice puisse être un instrument de lutte véritable
l'ensemble des populations ivoiriennes puissent sentir les effets de la justice. Je rappelle également que Ocampo, quand il était pourtant, avait clairement indiqué qu'il poursuivrait dans les deux camps. Et donc nous entendons que cette promotion du procureur qui travaille dans la continuité puisse se faire pour que la lumière soit faite.
Drissa Traoré, avocat ivoirien et vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, il était joint à Abidjan. Reporté à plusieurs reprises, ce procès est attendu autant par le camp Ouattara que par celui de Laurent Gbagbo, d'autant qu'il repose la question cruciale des rapports entre justice et réconciliation. Dans les bastions des deux accusés, des écrans géants devraient être installés pour que la population puisse suivre les procédures. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir n'a pas la même lecture concernant ce procès Gbagbo. On écoute Joël Nguessan, porte-parole du RDR, le parti du président Alassane Ouattara.
Nous voulons que ce soit un procès qui puisse établir la vérité et les responsabilités. Si dans l'intérêt des victimes, ce n'est pas un procès politique, c'est un procès qui fait suite à des tueries massives qu'il y a eu en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale. Qui a recruté des mercenaires? Qui a armé les miliciens? Qui a tiré sur les femmes dans les marchés? Qui a inventé le fameux article 125 où on prenait du pétrole et on mettait sur des individus et puis on les brûlait? C'est cette vérité que nous souhaitons avoir. Une fois que les Ivoiriens sauront les responsabilités et la vérité, la Cour pénale a rempli sa mission.
Mais quand on dit guerre civile, c'est deux parties qui se battent.
Bien sûr que c'est deux parties qui se battent. Bien sûr. Mais la réalité, c'est qu'il y a des chefs d'accusation. Vous savez que quand il y a un conflit militaire et qu'on tire sur les civils au mortier, on appelle ça crime de guerre. Et quand il y a eu les morts à Bobo, les femmes qui ont été tuées à Bobo, on appelle ça crime contre l'humanité. Donc notre souhait, c'est que la Cour pénale dise si il y a eu crime contre l'humanité et crime de guerre.
Joël Nguessan, porte-parole du RDR. Plus d'un millier de partisans de M. Gbagbo sont attendus pour une manifestation tout à l'heure devant les bâtiments de la CPI à La Haye. Pour le camp Gbagbo, ce dernier est un chantre du multipartisme et la France, ancienne puissance coloniale, serait derrière le complot qui a entraîné la chute de Laurent Gbagbo. Écoutons Patrice Comté, basé à Genève, il est l'un des organisateurs de cette manifestation.
Le procès pour la manifestation, pour la matérialité de la vérité, va se tenir à La Haye. Le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ont été déportés, tout le monde le sait, de manière abusive. Tous les Ivoiriens, tous les Africains, tous les panafricanistes, tous ceux qui sont épris de justice, vont prendre d'assaut une seule direction, un seul pays, un seul lieu, la Cour pénale internationale. Les convois vont partir de la Belgique, de l'Angleterre, de la France, de la Scandinavie, de l'Italie, de tous les pays du vieux continent. Nous allons nous retrouver à La Haye pour dire que ceux qui sont détenus de manière abusive doivent être libérés pour aller continuer leur combat en Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous préparons.
Patrice Comté, l'un des organisateurs de la marche de soutien à Laurent Gbagbo, qui aura lieu tout à l'heure à La Haye. Ici aux États-Unis, ce procès sera aussi très suivi par la communauté ivoirienne. Enyaka Lagoke est ivoirien et professeur d'histoire à Montgomery College dans la région de Washington.
C'est vrai que Laurent Gbagbo n'est pas un enfant de cœur, mais il est définitivement pas ce que l'on veut présenter de lui. Et le procès qui va avoir lieu va être non seulement le procès de Soro aussi, qui a été le chef de la rébellion, de M. Alassane Dramane Ouattara qui a fait la rébellion, le procès de Blaise Compaoré qui a soutenu la rébellion en Côte d'Ivoire, et surtout le procès de la France qui s'est impliquée dans la guerre en Côte d'Ivoire du côté de M. Ouattara, et le procès de la communauté internationale, en un mot, le procès du néocolonialisme. Pour nous, c'est une opportunité pour essayer de dire aux Africains, à tout le monde, que c'est inadmissible qu'un chef d'État africain se retrouve dans une prison d'un pays qui a été à l'origine de l'apartheid. Et donc l'histoire de Gbagbo nous rappelle à nous les tragédies qui sont arrivées à Thomas Sankara, à Patrice Lumumba, à Kwame Nkrumah et à toute cette ouverture, à tous ces symboles-là qui à un moment donné ont voulu défier l'ordre international dirigé par les Occidentaux.
Le professeur Nyaka Lagoke, historien ici dans la région de Washington. Pour les partisans de Laurent Gbagbo à Abidjan, l'ancien président est innocent et ce procès va permettre de faire éclater la vérité. À Yopougon, dans la banlieue d'Abidjan, quelle est l'atmosphère dans ce qui était considéré à l'époque comme le fief de Laurent Gbagbo et des jeunes patriotes? Notre confrère Li Gohaime Ludovic de la radio Yopougon.
Aujourd'hui, Yopougon, c'est l'ambiance quotidienne, hein. Il n'y a pas de mouvement particulier ici. La population va tranquillement à ses occupations C'est vrai que dans les journaux, on a pu suivre un peu le développement de cette actualité-là par la presse ivoirienne et tout ça. Mais en ce qui concerne le quotidien même de la population, c'est le quotidien normal de tous les Ivoiriens, c'est le quotidien normal de la population de Yopougon, le fief du président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, la ville n'a pas une ambiance particulière. C'est l'ambiance de tous les jours ici à Yopougon. Ce matin, la population s'est réveillée dans le calme. La population va à ses occupations. Le transport urbain se déroule normalement. Il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de mouvement particulier, il n'y a pas de regroupement particulier ici à Yopougon.
Dans les maquis, les jeunes patriotes, on n'entend plus parler?
Non, en ce qui concerne les jeunes patriotes, c'était d'abord les regroupements dans les parlements et agora. Lesquels parlements et agora n'existent pratiquement plus? Alors les rassemblements, même s'il doit en avoir, c'est peut-être des groupuscules de personnes qui peuvent se réunir soit à la maison ou chez un ami. Mais je pense que ça se passait dans la discrétion totale. Il faut dire que quand on sait que Yopougon est vraiment le fief de Louan Gbagbo, une telle actualité, on devait s'attendre quand même à de grands rassemblements, à de grandes mobilisations en guise de soutien à celui-là même qui constitue leur mentor, parlant donc des militants du FPI, mais ce n'est pas le cas.
Ligo a aimé Ludovic de la radio Yopougon dans ce dossier spécial sur le procès de Laurent Gbagbo aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. Un dossier préparé par Idriss Fall. Je vous donne rendez-vous sur notre page Facebook pour continuer le débat et sur notre site internet voafrique.com pour retrouver en images et en son notre dossier spécial sur le procès de Laurent Gbagbo à la CPI.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
L'ONG Transparency International a publié son rapport 2015 sur la perception de la corruption dans le monde. Le Soudan, la Corée du Nord et la Somalie sont perçus comme les pays les plus corrompus au monde, alors que le Danemark, la Nouvelle-Zélande et la Finlande sont considérés comme les plus vertueux. En ce qui concerne l'Afrique, Nanit Talani a joint Samuel Kaninda, coordonnateur régional Afrique de l'Ouest de Transparency International.
Il ressort de l'indice de perception de la corruption édition 2015. Il n'y a pas beaucoup de progrès en termes de la prestation ou la performance des pays africains. Ceux qui se retrouvent au bas de l'échelle, on a toujours la Somalie, on a l'Angola, le Soudan du Sud et la Guinée, Bissau et l'Érythrée. Donc si on peut prendre les cinq au bas de l'échelle africain.
Qu'en est-il du Nigeria ?
Le Nigeria a régressé d'un point, d'une note, par rapport à la dernière édition de 2014. Mais la chute n'est pas plus importante que les pays que j'ai mentionnés. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à fournir parce que le Nigeria a une note de 26 sur 100, donc qui est largement en deçà de la moyenne. Donc ça indique qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir.
Alors je suppose qu'il y a quand même certains pays africains qui ont fait des progrès.
Le premier pays en termes de progrès sur la note, le score, c'est le Rwanda, qui est aussi au-delà de la moyenne. Donc il y a 54 sur 100, suivi de la Namibie. On a aussi le Mali, le Togo et le Sénégal. Si on peut prendre quelques-uns qui se retrouvent quand même en bonne place. Donc.
Est-ce que vous avez des recommandations à faire aux pays africains pour juguler la corruption?
Oui, la recommandation principale est que ce qui ressort en fait de notre analyse est qu'il faut une volonté politique et puis un leadership plus fort en termes de lutte contre la corruption, parce que ce qui mine nos pays, c'est aussi l'impunité pour les actes de corruption, surtout quand des responsables dans tous les secteurs, mais principalement publics, parce que c'est le secteur qui régit la gouvernance dans nos pays, où il y a une impunité quand des cas de corruption sont avérés, et là où il y a l'impunité, la corruption prospère. Il y a aussi cette question d'état des droits qui manque dans la plupart des pays. Et si vous voyez les pays que j'ai cités comme étant au bas de l'échelle, ce sont des pays soit en conflit où évidemment l'état de droit n'y est pas, où certains principes de bonne gouvernance tels que la transparence, redevabilité, l'état de droit que j'ai déjà mentionné ne sont pas de mise. Donc notre principale recommandation serait que nos responsables publics au niveau de l'Afrique y accordent une priorité.
Samuel Kaninda, coordonnateur régional de Transparency International.
Dans Washington Forum cette semaine, direction la Centrafrique, les résultats du premier tour des législatives annulés. Le pays se dirige vers un report du second tour de la présidentielle. Ces couacs étaient-ils prévisibles? À qui profitent ces retards? Y a-t-il un risque que le pays s'enlise de nouveau? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h pays.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. Nicolas Pinault a la présentation. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.